Bienvenue dans notre programmation Les Ondes d'intégration, une action cofinancée par le FEI, le Fonds européen d'intégration. Ce trimestre, nous avons parlé des notions de liberté, égalité et fraternité. Je vous propose d'écouter une émission sur les droits des femmes et leur place dans la société. Vous entendrez deux stagiaires, Camille Gosselin et Pertille Chédan, qui parleront de les femmes dans l'art et les femmes dans l'emploi. Océane Bourria, service civique à Aude Radio, est membre d'un collectif étudiant féministe, le CLÉ. Et Marie-Françoise Rébaud, coordinatrice emploi-création d'entreprise au Centre d'information des droits des femmes et des familles, ainsi qu'Edith Marouet-Joule, chargée de mission égalité à la ville de Floirac. Très bonne écoute sur Aude Radio. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour notre question d'actualité du jeudi soir. Et comme tous les premiers jeudis de chaque mois, c'est une question de médiation. Une émission qui traite de l'actualité et qui donne la parole aux associations, habitants et institutions. Et à la veille du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, on a choisi de parler de la question de la place de la femme dans la société. Alors pourquoi en 2014, cette journée du 8 mars, proclamée en 1975 par l'Organisation des Nations Unies comme journée internationale des droits des femmes, est toujours d'actualité? Parce qu'il y a encore de réels progrès à faire, même si depuis 20 ans, cette question progresse, des inégalités demeurent toujours. Chiffre à la clé, les femmes passent 4 heures aux tâches domestiques, ménage, courses, enfants, deux fois plus que les hommes qui n'y consacrent que 2h13. 31% des femmes salariées travaillent à temps partiel contre 7% de leurs collègues masculins. Dans la catégorie socio-professionnelle des cadres, seulement 39% sont des femmes. 25% des femmes gagnent toujours moins que les hommes. Et 833 €, c'est le montant moyen de la pension de retraite des femmes, deux fois moins que les hommes qui touchent 1 743 €. Enfin, au niveau représentation, 22% seulement de femmes sont élues au Sénat et un peu moins de 14% de femmes sont maires. Pour cette émission, on a choisi d'évoquer la place de la femme à travers plusieurs thématiques. Les femmes dans l'art avec Camille Gosselin. Bonjour Camille.
Bonjour.
Qui est en DUT carrière sociale et qui a été stagiaire pendant un mois à Aude Radio. Nous avons notre deuxième stagiaire, Bertille, qui va nous présenter les femmes mères de famille dans le monde professionnel. Bonjour Bertille.
Bonjour.
Et enfin, l'histoire des mouvements féministes avec Océane, service civique à Aude Radio.
Bonjour.
Bonjour Océane. On reçoit aussi Edith Marouet-Joule, créatrice du bureau d'études La Robe et chargée de mission égalité à la ville de Floirac. Bonjour Edith.
Bonjour.
Et enfin, Marie-Françoise Rébaud, coordinatrice emploi-création d'entreprise au Centre d'information des droits des femmes et des familles, le CIDFF. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer par vous deux, Edith, si on peut commencer à faire une petite présentation de votre mission égalité à la ville de Floirac. En quoi ça consiste ?
Donc c'est une mission toute nouvelle, donc qui a été créée depuis le 1er janvier 2014. Moi, ça fait 13 ans que je travaille à la ville de Floirac sur la question de ce qu'on a appelé les politiques jeunesse, et on avait déjà beaucoup travaillé avec Madame Conchita Lacoué, hein, précédemment maire de la ville de Floirac, sur la question de l'égalité filles-garçons dans les loisirs et de manière plus large, hein, la participation des femmes à la vie de la cité, hein, à la présence sur la ville. Et puis Monsieur Puyebro a souhaité s'engager dans la même continuité et en affichant de manière assez forte cette mission-là, et m'a demandé d'occuper donc un poste sur un mi-temps, hein, sur la question de l'égalité femmes-hommes puis filles-garçons, alors à la fois dans les politiques publiques, hein, que la ville mène en direction de ses habitants et ses habitantes, mais aussi auprès des services, auprès de nos partenaires, en faisant de cette question-là une question de lecture, hein, de la ville et de ce qu'une mairie peut mettre en place dans une commune. Voilà.
Alors j'ai oublié de préciser que vous faites une thèse sur ce sujet et que vous avez écrit un article, La mixité à l'épreuve des loisirs des jeunes dans 3 communes de Gironde. Et quel constat vous avez pu remarquer à travers cette thèse ?
Oui, donc c'est un travail donc universitaire, hein, qui a duré pendant 3 ans avec une étude qu'on appelle quantitative dans un premier temps, c'est-à-dire un tableau statistique de la fréquentation des jeunes gens hein, entre 6 et 18 ans sur l'espace du loisir des jeunes, l'espace qui est subventionné, c'est-à-dire les clubs sportifs, le sport entre midi et deux, ce qu'on appelle les vacances sportives, mais aussi tout ce qui va être équipement municipal ou en tout cas financé par la puissance publique, par exemple école de musique, école de danse, équipement sportif, et un regard aussi sur ce qu'on appelle le loisir généraliste, qui sont les centres de loisirs et les maisons des jeunes. Donc ce que j'ai recherché à travers cette photographie des usages, c'est deux questions qui sont assez simples. Hein, la première est, y a-t-il mixité dans le loisir des jeunes, c'est-à-dire les filles et les garçons se retrouvent-ils, se mélangent-ils sur des activités? Donc ça c'était la première question. Et la seconde, c'était y a-t-il égalité dans la distribution de l'argent public, hein, c'est-à-dire voilà, comment on redistribue quand on met en place des politiques éducatives. Alors ça se mesure par la fréquentation. Si par exemple il y a beaucoup plus de garçons qui fréquentent que de filles, ça pose la question de l'équité, hein, au minimum de la redistribution. Ça se mesure aussi sur ce qu'on appelle l'égal accès, c'est-à-dire quand je suis une fille ou un garçon, lorsque je me présente à la porte d'un loisir ou d'un équipement, est-ce que j'ai le même choix ? C'est-à-dire, concrètement, est-ce qu'une fille, par exemple, a le même panel d'activités sportives ou de clubs sportifs qu'elle peut pratiquer qu'un garçon, voilà. Et ensuite, un autre niveau aussi qui est un peu plus subtil, mais qui est très important, je pense qu'on le verra dans notre débat, c'est la question de l'égale valeur. C'est-à-dire, est-ce qu'on valorise dans notre société, en tout cas la puissance publique, hein, les gens qui financent, de la même manière une activité de fille qu'une activité de garçon ? Donc sur cet ensemble, ce panel de questions, mélange et égalité, voilà, mais le constat est que non. Voilà, il n'y a ni mixité ni égalité dans l'espace du loisir des jeunes. Alors c'est un peu sec de le dire comme ça, mais je ne vais pas développer, vous me réinviterez.
Ouais. Alors Marie-Françoise Rébaud,
le CIDF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, est une association loi 1901 avec un réseau national, le Centre national des droits des femmes et des familles, et des CIDF à peu près un par département, chacun étant indépendant mais relié au réseau national qui fait le lien et avec le terrain, les territoires et le niveau national. Donc le CIDF à Bordeaux a une vocation plutôt sur le territoire de la Gironde. Les missions des CIDF, la mission globale, c'est d'œuvrer en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et pour ce faire, chaque CIDF développe des actions dans différents domaines. En principe dans le secteur de l'emploi, dans le domaine juridique et tout un tas d'actions concernant le phénomène des femmes victimes de violences dans les couples. Voilà. Donc au CIDF Gironde, on mène toutes ces actions-là. On fait à la fois un travail d'accompagnement des femmes et d'information et d'accompagnement des femmes et également des actions de prévention. Donc les actions de prévention, on les mène au sein des écoles, collèges, lycées. On travaille aussi avec les partenaires. On fait aussi des actions d'information, de formation, de sensibilisation des professionnels. Voilà.
Alors vous organisez un métier et mixité, femme en tête à ce nom, samedi 8 mars.
Qu'est-ce que c'est que ce samedi ? Eh ben, ce samedi, c'est une après-midi d'animation qui a été organisée principalement par un groupe de femmes chefs d'entreprise que l'on a sollicité et qui ont eu envie d'organiser cette journée. Cette journée, elle est placée sous le thème plutôt des parcours de femmes, d'exemples de femmes qui ont pu avoir des parcours atypiques. Par exemple, les femmes chefs d'entreprise, elles représentent quand même que 29% de la population. Voilà. Et puis après, on va aussi beaucoup avoir d'animations autour de parcours professionnels atypiques avec des métiers. On a par exemple la diffusion d'un film autour du métier de la mécanique auto. Et voilà, donc pas mal de témoignages, de parcours de femmes et d'échanges des uns avec les autres.
Alors on rappelle qu'on a diffusé sur Eau de Radio des parcours de ces femmes, chefs d'entreprise.
Oui, super.
Voilà, ouais. Qui ont bien voulu témoigner sur nos ondes de leur parcours parfois difficile, exact. Des discriminations qu'elles ont vécues par
oui,
par moment.
Oui, puisque effectivement l'angle qu'on avait pris, parce que en fait cette journée on l'avait déjà fait en 2012. Généralement on l'a fait tous les deux ans parce qu'en fait il y a d'abord un travail avec le public. L'idée de cette action c'est pas uniquement de faire un événement, c'est aussi d'amener des femmes à s'interroger sur cette question-là elles-mêmes et d'être finalement porte-parole à travers ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles voilà. Donc on l'avait fait en 2012, on va faire 2014, et c'est vrai que cette année 2014, elle a un angle particulier qui est quand même être à la fois une femme et une femme issue de l'immigration ou étrangère. Et donc voilà.
Je vous remercie Marie-Françoise Rébaud. On va passer avec Camille,
oui.
Donc sur les femmes dans l'art.
Oui.
Alors pourquoi ce choix-là de ces deux thèmes ?
Donc je suis passionnée d'art en général, que ce soit la musique, la peinture, la danse, le théâtre, donc tout ce qui touche au monde de la culture. Et c'est vrai que je me suis un peu penchée sur les chiffres et c'était quand même assez assez probant, des chiffres assez choquants. Donc du coup, je me suis beaucoup intéressée au sujet et j'ai fait pas mal de recherches. Et du coup, je me suis renseignée, je suis allée rencontrer des femmes artistes, des femmes qui luttent justement contre ce phénomène de discrimination dans le monde de l'art et de la culture.
Quel constat tu as pu faire à travers tes recherches alors ?
Bon alors pour moi, enfin, ce qui était le plus éloquent, c'est surtout les chiffres. Alors par exemple, on constate que 86% des établissements d'enseignement artistique sont dirigés par des hommes, 94% des orchestres le sont également, 97% des musiques que nous entendons dans nos institutions ont été composées par des hommes, et par exemple dans le domaine de l'édition, sur une cinquantaine d'ouvrages et plus, seuls 20% ont été écrits par des femmes. Donc ça, c'est un tout petit panel des chiffres qu'on peut récolter à droite à gauche sur Internet, dans les livres, etc. Donc c'est un constat assez alarmant, puisque en fait, pour moi, ce qui est assez choquant, c'est que le milieu artistique, c'est un milieu d'expression, et il se trouve qu'il est censé révéler ce genre de discrimination, et pourtant, il les colporte presque plus que certains milieux. Donc c'est ce qui m'a assez choquée, voilà.
Alors, est-ce que c'est un constat que vous avez pu remarquer, Edith, hein, par exemple ?
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que souvent, on entend que, par exemple, les filles, elles font pas du sport, parce que, bon, c'est une forme c'est-à-dire qu'elles ne sont pas naturellement portées vers le sport. Hein, mais que, par contre, elles font du loisir artistique, ce qui serait une forme d'équilibre dans la société française entre une pratique masculine et une pratique féminine. Sauf que quand on regarde en détail, non seulement... la pratique artistique chez les jeunes tend à s'affaiblir de manière très conséquente. C'est pas du tout la même organisation, la prise en charge publique de la pratique artistique est complètement différente que celle de la pratique sportive. Donc bon, ça se démontre par X regards, par exemple, il n'y a pas de lien entre un mode de garde type centre de loisirs et la pratique, par exemple, d'un instrument de musique ou d'une activité artistique et culturelle, alors qu'il y a des liens pour aller à un club sportif. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, il y a toute une organisation déjà qui est beaucoup plus faible. Et en plus, le fait qu'elle ne soit pas globalisée dans l'ensemble du loisir des jeunes fait qu'il faut être complètement disponible pour amener l'enfant à les récupérer. Enfin, bon, c'est une contrainte aussi en termes de temps. Il y a donc beaucoup moins de pratiques artistiques, de fait, que de pratiques sportives. Donc, même si elles étaient plus à la pratique artistique, elles seraient moins nombreuses que ce que ne peut absorber, par exemple, une pratique sportive. Mais en plus, quand on regarde dans le détail, eh bien, il y a autant de filles que de garçons qui font de la musique. Voilà, c'est-à-dire qu'une école de musique, il y a 50% de filles et 50% de garçons. Il y a exactement la même pratique aussi d'emprunt de livres à la médiathèque et dans les bibliothèques. Par contre... les pratiques sont sexuées, c'est-à-dire qu'une fille et un garçon, ça ne pratique pas le même instrument de musique. Et c'est là où va se réinvestir ce qu'on appelle le stéréotype. Et après, je pense que ça a été très bien révélé ici. Vous avez chaque année un rapport qui sort, qui est commandité par le Sénat, qui est un rapport de Reine Pratt et qui redit que dans la création artistique, alors ça se regarde de mille façons, cette question de la place des femmes dans l'art. Donc, à la fois sur la subvention, par exemple, une femme, non seulement elles sont moins nombreuses, par exemple, à être metteuses en scène ou à être soutenues dans leur écriture, dans la mise en scène, mais en plus, elles sont beaucoup moins financées qu'un metteur en scène homme.
Alors, Camille, est-ce que vous avez fait d'autres constats sur la place des femmes dans l'art ?
En fait, moi, ce qui m'a un peu interpellée, alors bon, avant le XXe siècle, les femmes donc n'avaient pas forcément accès aux cours. Enfin, là, je parle de tout ce qui concerne les arts plastiques, etc. Donc, n'avaient pas forcément accès aux cours d'art puisqu'elles n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Et puis, en plus de ça, les femmes désirant peindre, elles n'avaient pas accès aux écoles et en plus qu'elles étaient interdites de cours de nu, elles pouvaient représenter dans leurs tableaux que des natures mortes ou des paysages. Donc, elles n'avaient pas un art, si on peut dire, noble entre guillemets. Du coup, elles n'ont jamais vraiment été reconnues comme de grandes artistes. Mais moi, ce qui m'a un peu interpellée, c'est justement que avant le XXe siècle, elles y avaient pas accès. Mais aujourd'hui, elles ont accès aux mêmes cours et aux mêmes institutions que les hommes. Et pourtant, elles demeurent absentes du paysage culturel français, malgré les avancées en ce qui concerne l'égalité homme-femme. Donc moi, ce qui m'a un peu interpellée, c'est surtout ça.
Et est-ce que tu as réussi à trouver des explications, de témoignages là-dessus ?
Alors, j'ai des témoignages, effectivement, des explications. J'avoue que tout le monde est assez flou sur le sujet, personne ne sait vraiment pourquoi exactement. Et du coup, voilà, donc j'ai été rencontrer, moi, Audrey Laroche, qui travaille à la Maison des Femmes, cours Alsace-Lorraine. La Maison des Femmes, c'est un lieu d'écoute et d'orientation sur les problématiques, les informations et le soutien concernant les femmes. Et c'est également un lieu culturel et artistique avec des expositions d'œuvres de femmes artistes, des conférences, des débats sur la question de la place de la femme dans la société, etc. Donc elle se définit comme étant une conseillère en projet artistique. Et donc du coup, je lui ai demandé de me faire part de son point de vue en ce qui concerne la place des femmes dans l'art et la culture.
On l'écoute ?
Allez.
C'est cette idée d'offrir un lieu d'exposition et d'expression aux femmes. On se considère, on va dire, un peu comme une galerie associative où on peut venir nous présenter des projets et puis on va les accompagner. Ce qui est très important dans nos missions d'éducation populaire, il y a vraiment des accompagnements de projets. Moi, ce qui m'a toujours intéressée ou motivée pour militer, c'est la liberté des femmes à disposer de leur corps. Et en tant que militante féministe, j'ai milité au collectif bordelais pour les droits des femmes, dont la Maison des Femmes est issue. J'ai travaillé de mon côté pour comprendre les enjeux de diverses problématiques autour des femmes, ce qui m'a donné aussi des bases pour pouvoir travailler ici. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est la possibilité d'accès des femmes à des endroits pour montrer leur travail. Alors, on l'a vu dans l'art contemporain, par rapport à la reconnaissance en fait du travail des femmes, majoritairement, même si ça a évolué, les femmes les plus cotées en termes d'enchères, en termes de ventes dans l'art contemporain ou représentées dans les collections, etc., sont évidemment moins nombreuses que les hommes. Après, pourquoi il y a toute une histoire ? Est-ce que c'est par rapport justement au fait, puisqu'on en parle actuellement, les ABCD d'égalité, au fait que les femmes puissent être construites pour aller plus vers tel ou tel métier ou vers tel ou tel autre métier ? Après, ce sont des rapports, le genre par exemple, ce sont des rapports de pouvoir. Donc, qu'est-ce qui fait que les femmes aient moins de facilité d'accès aux écoles ou en tout cas, est-ce qu'elles ont les mêmes facilités d'accès, mais qu'est-ce qui fait la différence après ? Est-ce que c'est seulement la valeur artistique d'une œuvre ? Parce qu'un artiste, c'est, on va dire, pas un homme ou une femme, c'est un artiste. Mais qu'est-ce qui fait quand même que les femmes soient moins représentées dans l'art ? Ça reste quand même une question qu'on peut se poser avec peut-être des questions de réseau, de construction sociale, de rapports sociaux, de pouvoir, etc. Le terme classe sociale semble révolu alors qu'il ne l'est pas du tout. Donc on peut se poser des questions en termes de classe sociale, en termes de réseau. Ça, c'est important en termes de construction, effectivement, de personnes. Je ne sais pas du tout si c'est dans le domaine de l'art et de la culture, ce sont les mêmes discriminations. Est-ce qu'on peut parler de discrimination dans l'art et dans la culture ? À quel niveau ? Mais est-ce que en tant que femme, par exemple, c'est plus facile ou plus difficile ? Mais il y a d'autres facteurs. C'est une des variables, la variable du genre, mais c'est pas une des seules variables, à mon avis, qui rentre dans le fait qu'on puisse accéder plus ou moins à des réseaux qui vont vous valoriser. Au-delà de la qualité de votre travail, évidemment, de ce que vous présentez, à mon avis, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Le genre en est un, mais c'est pas le seul. En tout cas, nous, par rapport à ce qu'on voit ici, c'est important de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer un travail. Donc là, on est, nous, dans l'exposition, dans le fait de montrer un travail, mais dans le fait aussi que, donc, du coup, comme on sait qu'on va pouvoir le montrer, on va pouvoir s'exprimer. Donc, qu'est-ce que l'art peut apporter aux femmes ? Je ne peux pas y répondre spécifiquement, mais qu'est-ce que l'art, la pratique artistique va apporter à un être humain ? et le fait aussi de la valorisation. On peut parler de l'estime de soi, dans certains cas, pas spécifiquement. L'estime de soi, c'est pas l'ego. Le fait d'ouvrir la porte peut apporter à des personnes plus de confiance en soi, d'avoir des activités, qu'elles soient encore une fois amateurs ou qu'elles aillent vers le professionnel, qui permettent d'avoir la vie qu'on veut mener. Les conseils, je ne sais pas du tout, de l'énergie, c'est clair. Et puis surtout, effectivement, avoir un réseau professionnel, c'est le plus important. Et rencontrer les personnes, discuter avec elles, quel que soit le domaine professionnel dans lequel on travaille. Je reviens sur les guérilla girls. Effectivement, c'est ce qu'elle disait, 5% je crois de femmes dans les musées en tant qu'artistes, 85% de femmes nues. Les tableaux. Donc, il faut plutôt s'interroger là-dessus et aussi sur l'histoire artistique des femmes, de leur représentation, comment à un moment donné, elles n'étaient plus aux Beaux-Arts, etc., etc. Comment c'était les femmes, justement, qui avaient un père ou un mari qui avait de l'argent et qui leur permettait d'exercer leur activité artistique. Donc, on reste quand même sur des questions, encore une fois, de genre, de classe sociale et de variables qui se lient.
Donc là, c'était plutôt le domaine des arts plastiques, mais j'ai aussi étudié le domaine des médias. Et donc, on constate les mêmes problématiques, à savoir que le temps de parole des femmes à l'antenne, que cela soit en radio ou en télé, demeure très largement inférieur à celui des hommes, puisqu'il ne représente que 30%. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Il faut savoir qu'on est aussi dans les clichés, dans le sens où les femmes ont souvent un rôle de témoin ou de victime, qui joue sur les sentiments, sur le pathos. Et les hommes, eux, sont souvent amenés à parler technique et connaissances. Donc voilà, on voit bien où on se situe. Et puis on parle aussi du temps de parole des experts à la télé. Déjà, le plus souvent, les experts sont des hommes. Et puis lorsque ce sont des femmes, par exemple, les hommes parlent 25 minutes et les femmes 1 minute 35 en tant qu'experts. Donc c'est très choquant, je trouve. Et ça, c'est d'après les études du gouvernement. Hein, donc,
c'est un rapport officiel du gouvernement.
Donc oui, c'est probant. Et voilà. Et du coup, moi, j'ai aussi rencontré une médiatrice culturelle qui travaille au Rocher de Palmer, qui s'appelle Zoé Delataille. Et donc ton travail consiste à faire le lien entre la culture et les différents publics qui en sont éloignés pour diverses raisons, économiques, de santé, des raisons sociales. Donc elle, par contre, elle a un regard assez différent parce qu'elle n'a jamais été victime elle-même de discrimination du fait de son état de femme. Elle a beaucoup bossé dans le milieu du hip-hop, et donc un milieu assez masculin. Elle a côtoyé beaucoup d'hommes, mais justement, elle nous explique un petit peu comment ça a pu être un atout pour elle d'être une femme dans le milieu du hip-hop. Du coup, elle nous explique aussi le fonctionnement du Rocher de Palmer en ce qui concerne l'égalité homme-femme.
J'ai un point de vue un petit peu plus nuancé, parce que même si, comme tout le monde, ça a été dur de trouver un travail, parce que je suis passée par plein d'expériences de stage, j'ai jamais eu de problème, que ce soit en maison de disques, dans les associations hip-hop ou à Musique de Nuit, l'association qui gère le projet culturel du Rocher de Palmer. Dans le hip-hop, ça a été même plutôt un atout, parce que soit il y a du machisme, soit on peut aussi être respecté si on arrive... sans en faire trop. Et donc dans l'association qui s'appelait Hip Hop Résistance, ça s'était bien passé parce que justement quand je les avais contactés, le fait que je sois une femme, ça les intéressait pour apporter un peu de légèreté, vu que c'est un milieu d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui les contactaient pour travailler avec eux, et moi quand je les avais appelés juste pour apporter mes services, quoi, je sais que c'est quelque chose qui avait pesé dans la balance. Donc j'ai toujours été très respectée, j'étais avec ces personnes là j'étais avec eux, personne ne m'a jamais mal parlé, mal considéré. Et puis par la suite, que ce soit mon expérience dans la culture hip-hop à Bordeaux ou que ce soit dans mon travail ici, j'en ai pas souffert. Alors c'est difficile de se placer d'un point de vue général quand on entend parler de ce sujet, parce que ce qu'il faudrait, c'est avoir des discussions avec plein d'entreprises ou plusieurs domaines dans l'art pour savoir de quelle manière a lieu cette inégalité. Mais ce qui m'amuse en fait, c'est que là aussi j'apporte un point de vue un peu nuancé, c'est qu'ici au Rocher de Palmer justement, on a une parité, parce que je crois qu'on est 14 salariés et il me semble qu'on est 7 femmes et 7 hommes. Donc c'est amusant de voir que finalement il y a beaucoup de femmes qui postulent, que ce soit candidature spontanée ou des demandes de stage ou des services civiques, de voir que c'est vraiment la plupart du temps des femmes qui postulent, et finalement de savoir que dans les chiffres, donc sans doute la majorité de tous ces emplois, ça va être plus des hommes qui sont employés. J'avoue que je me l'explique pas vraiment, mais si je me place de mon point de vue à moi, ici on n'a pas trop ce problème-là. C'est tellement ancré, c'est un état de fait, que du coup on ne se pose absolument plus la question. Mais c'est vrai que si on prend Barbé, Krakatoa, musique de nuit, rock et chanson, donc les 4 SMAC, eh ben c'est des hommes. C'est que au Rocher, donc on est 7 ou 8 femmes, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une femme qui est embauchée comme régisseuse générale. Alors, on a un directeur technique qui est là depuis des années, mais c'est juste ça fait 30 ans qu'il est là, donc c'est un fait aussi. Mais il se trouve qu'on a embauché cette personne-là en régie générale, quoi. Et je trouve ça super, parce que c'est une femme. Elle a commencé en stagiaire, après je crois qu'elle a enchaîné sur un service civique, et maintenant elle est régisseuse générale et elle le remplace tout aussi bien que lui quand il n'est pas là. Et ce qui m'amuse aussi, c'est qu'en service civique en ce moment, et en stage, il y a 2 femmes en technique. Et donc ça, c'est assez rare, parce que c'est des emplois où justement, souvent on va dire, non, une femme, ça peut pas porter des choses lourdes, ça peut pas avoir la même logique qu'un homme, gérer autant de pression, et alors qu'elles le font vraiment très bien. C'est énervant de se dire qu'on a à se poser la question. On devrait pas avoir à se dire, ah bah tiens, je la prends pas parce que c'est une femme, ou avoir à se dire, tiens, je la prends parce que c'est une femme et que ça va apporter de la douceur ou un peu enfin, ça permettra de relativiser des choses, des points de vue. Ça devrait être, c'est une femme, c'est un homme, peu importe, elle est embauchée pour ses compétences, quoi. Mais par contre, c'est évident que la question va toujours se poser et que quand un directeur ou une directrice va embaucher, parce que les directrices aussi peuvent avoir ce point de vue, vont embaucher une femme jeune, elles vont peut-être se dire « Ouais, mais là, elle a 26 ans, peut-être qu'elle va vouloir avoir des enfants, donc ça va pas m'arranger. » Ici, on lutte beaucoup contre les discriminations de manière générale, que ce soit justement raciale, que ce soit du point de vue du handicap aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec des publics handicapés ou des personnes qui peuvent avoir aussi des problèmes psychiatriques, des gens qui ont eu des accidents, des parcours de vie interrompus. Donc c'est vrai qu'on essaye de travailler un peu là-dessus.
Donc merci beaucoup à Zoé Delataille pour son intervention. Le point qui m'interpellait dans le discours de Zoé Delataille, elle souligne le fait qu'on a tellement l'habitude de ce procédé, tellement l'habitude de voir 5 hommes face à une femme ou 100 tableaux d'hommes face à 2 tableaux de femmes qu'on se pose même plus la question. Ça paraît logique, on le remarque même plus, les petits détails comme ça, parce que c'est tellement ancré dans la société actuelle qu'on remarque plus. Donc pour moi, c'est à partir de ce moment-là, quand on commence à plus remarquer, que ça devient encore plus dangereux, quoi.
Je te remercie, Camille. Est-ce qu'il y a des références de groupes artistes féminines engagés dans la lutte féministe ?
Oui. Alors bon, je pense que les plus connus encore aujourd'hui, c'est les Guerrilla Girls, qui sont un collectif des États-Unis, qui dans les années 80 ont beaucoup lutté justement dans la discrimination dans l'art, alors pas en ce qui concerne que les femmes, beaucoup sur les femmes, parce qu'elles ont constaté par exemple, comme le disait tout à l'heure Audrey, que elles ont une phrase qui est assez significative. Elles disent que 5% des personnes exposées dans les musées sont des femmes, seulement 5%. Par contre, 85% des tableaux de nus sont des tableaux de femmes.
Bien sûr, ouais.
Donc voilà. Donc elles ont des phrases assez comme ça. Elles ont beaucoup travaillé sur le visuel aussi. Elles ont fait beaucoup d'affiches et elles luttent aussi contre la discrimination raciale dans l'art. Il y a aussi des collectifs aujourd'hui comme La Barbe qui, elles, leur credo, c'est qu'elles vont dans des endroits qui sont souvent habités exclusivement par des hommes ou par beaucoup d'hommes et elles portent une barbe, mais elles bougent pas. Elles font juste acte de présence. Pour souligner le fait que faut-il vraiment avoir une barbe pour entrer dans ce genre d'institution assez finalement réservée aux hommes, que ce soit politique ou culturelle, etc. Donc évidemment, il y a des grandes artistes comme Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on ne devient », et ou Frida Kahlo, qui étaient quand même des féministes avérées, qui ont lutté contre ces discriminations. Voilà. Et Orlan aussi, qui est une artiste plasticienne, j'aime beaucoup son travail. Et elle nous disait justement qu'elle est aussi, elle enseigne l'art à Cergy Pontoise et à New York et à Los Angeles. Et elle dit pourtant que 70% de ses étudiants en art sont des étudiantes et que pourtant, eh ben, on retrouve les mêmes chiffres, à savoir que 86% des établissements d'enseignement artistique sont dirigés par des hommes. Et souvent, les femmes ont la place dans l'art et la culture, mais elles sont très souvent relayées au rôle de second. Et jamais au rôle de, enfin, très rarement au rôle de directrice ou...
Je te remercie Camille, super travail. Est-ce que vous voulez réagir sur la place des femmes dans l'art ?
Je pense que ce qui est toujours intéressant de se poser comme question, et l'art, ça le permet de manière très soulignée, c'est la question de à la fois, quelle est la place des femmes dans le message artistique ? Hein, et ça, c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour les lectures, même pour les lectures qu'on lit aux enfants. Hein, c'est vrai pour ce qu'on voit, les images qu'on voit à la télé. Que, comme ça a été dit, le message qu'on passe quand on montre une femme, qu'est-ce qu'on veut dire ? Ben, on veut dire qu'elle pleure quand il y a un tremblement de terre et un incendie, comme si un homme ne pleurait pas lorsqu'il a perdu ses enfants. On dit qu'un homme est pompier alors qu'il y a des femmes pompières hein, partout maintenant dans le monde qui interviennent aussi. Donc c'est toujours ça. Et dans l'art, c'est très très prégnant, c'est la question de la muse, quoi, c'est-à-dire la passivité un peu de l'image de la femme, ou cette femme qui va être parfois malsaine aussi. Voilà, la question toujours les mêmes questions qui traversent nos sociétés, la question de la prostituée, la question de la mère, voilà. Mmh. Et d'un autre côté, comme ça a été très bien dit, la question de la création, quoi. C'est-à-dire, quelle place fait-on à la possibilité pour les femmes d'être créatrices ? Et ça, ça a été aussi un petit peu évoqué. C'est effectivement le poids du patriarcat, mais aussi la valeur, quoi. C'est-à-dire qu'on considère que la valeur artistique d'une femme, probablement comme sa valeur sportive ou sa valeur intellectuelle, est quand même moins fashion ou moins importante que celle d'un homme. C'est souvent de là que ça vient.
Alors, on parlait de médias aussi un petit peu. Marie-Françoise a apporté avec elle une affiche. Alors, si on peut juste un petit peu, une publicité qui vient de sortir d'ailleurs, de Kinder, je crois, c'est ça. On va
les
citer.
C'est ça, on va peut-être pas citer exactement, mais en fait, c'était dans le féminin, là. Donc, et le thème, c'est ma journée de maman. Donc, ça s'est présenté un peu comme un jeu de loi. Donc, il y a le départ. Ben, maman a son petit garçon dans les bras et sa petite fille à côté. Elle va à l'école. Ensuite, une fois qu'elle a porté ses enfants, elle se rend au bureau. Ensuite, elle a donc au bureau, elle travaille, elle a une réunion. Mais une fois qu'elle a terminé son boulot, maman continue. On va à la case suivante. Elle prend sa voiture et elle est dans les embouteillages avec ses enfants parce qu'elle est allée les chercher à l'école. Mais comme elle est très patiente et que malgré tout, elle veut vraiment le bien-être de ses enfants, la case suivante, maman amène ses enfants au parc. Oh, elle prend 5 minutes, elle se relance grâce à ce fameux tut qui lui procure du plaisir et qui la relance. Bien ensuite, sûr. La case suivante, oh, quand même, elle prend un petit peu de temps aussi. Elle va boire un café avec ses copines. Évidemment, les femmes vont boire un café avec leurs copines. Ensuite, elle va vite faire ses courses, elle met ses enfants au bain et elle repart pour le lendemain. Voilà, les publicités tout à fait d'actualité dans le Fémina du 2 mars 2014. Voilà.
Donc on reste encore dans les clichés, donc pas de traces d'homme hein, bien sûr sur ce
pas
jeu
de père,
loi.
Pas voilà. De père pour ses enfants, les pauvres. Pas de place pour... Et une mère qui maintenant non seulement s'occupe des enfants, mais doit également aller travailler. Et si elle peut se faire plaisir entre-temps avec ce tut, c'est très bien pour elle.
D'accord, merci Marie-Françoise pour ce petit cet aparté. Océane, est-ce que tu veux réagir là-dessus sur les publicités un petit peu
Je trouve que ça s'inscrit exactement dans le même schéma qu'on a l'habitude de voir et que, enfin, pour moi, c'est juste la conséquence encore du système patriarcal qui est hyper présent dans les magazines féminins aussi.
Jacques Brunet, ah oui, alors j'avais pas présenté Jacques Brunet de l'Écho des Collines parce qu'il est arrivé un petit peu en retard.
Le
seul homme de l'émission. Jacques.
Je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau des écoles et de l'éducation, à condition que les profs soient sensibilisés à ces problèmes-là. Ils commencent à l'être, mais enfin, il y aurait peut-être des progrès encore. Et alors, un travail sur les publicités, c'est formidable. Enfin, je pense que là c'est très éclairant, hein, en rassemblant des publicités qu'on peut ramasser un peu partout. Hein, et c'est accablant. Hein, c'est comme ça qu'on peut quand même faire réfléchir. Et je pense qu'ils ont très vite conscience qu'il y a des clichés énormes. Hein, et ce qui se fait à Floirac aussi, je pense que ça va tout à fait dans ce sens-là. Mais il faut commencer par là. Ouais, hein, sinon, ça peut continuer longtemps.
On va passer la parole à Bertille. Donc toi, tu as voulu parler des femmes dans l'emploi et notamment quand elles deviennent mères de famille.
Oui.
Alors pourquoi ce choix, Bertille ?
Alors parce qu'on a eu le projet avec le CIDFF, justement sur les femmes et leur parcours professionnel. Et j'ai eu envie de continuer pour aller rechercher plus loin, pour voir un peu mieux comment ça se passait et me faire ma propre opinion. Et à partir de là, je suis allée rencontrer des personnes.
Alors quel constat t'as pu tirer de ces rencontres avec ces femmes ?
Alors, je suis d'abord partie d'un constat un petit peu plus historique que l'évolution de la femme dans le monde de la vie active. C'est-à-dire que j'ai vu qu'à partir de 1900, en fait, que la femme commence à exercer des travaux, par exemple dans le textile ou dans la soie, et que par la suite, elle deviendrait ouvrière ou domestique, mais c'est qu'à partir de 1900. Mmh. En règle générale, les femmes ont commencé leurs activités professionnelles par les tâches les plus ingrates et les moins bien rémunérées, alors que les dirigeants sont la plupart du temps des hommes. Et donc du coup, j'ai vu qu'à cette époque-là, on reconnaissait peu leurs aptitudes et les organisations syndicales perpétuaient ces stéréotypes. Et c'est qu'au début de la Première Guerre mondiale que les femmes qui remplacent les hommes qui sont partis au front dans les usines prennent une place plus importante dans le monde de la vie active, puisqu'on voit une marge qui est passée de 5% à 30% de la part des femmes qui travaillent du coup dans les usines et dans le monde de la métallurgie. Et du coup, après la Deuxième Guerre mondiale, donc après 1945, les femmes sont de plus en plus présentes dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de l'industrie ou de l'agriculture.
Mais alors, ce qui est intéressant quand même à travers cette histoire, c'est que les femmes ont dû faire leurs preuves avant de pouvoir avoir des avancées. C'est-à-dire que vraiment, c'est parce qu'elles ont fait leurs preuves qu'il y a eu des avancées.
Bertie le disait bien, c'est souvent après la Première Guerre mondiale que les femmes ont dû prendre des places qu'elles n'avaient pas l'habitude de prendre. Pour autant, on voit bien qu'il y a eu une régression et qu'après, on les a replacées quand même. Quand les hommes sont revenus, on les replace quand même dans les métiers qui sont des métiers qui seraient typiquement féminins ou qui les ramèneraient à leur rôle de mère, leur rôle de femme d'intérieur, quoi. Donc, à la fois, on a eu des avancées qui sont liées à... Mais on voit quand même que, malgré la preuve qu'elles ont pu apporter, les choses qu'elles ont pu faire... il y a eu des régressions, quoi. Hein, voilà. Donc, que c'est quand même quelque chose qui doit être sans arrêt réactualisé et combattu, quoi. Enfin, l'idée que les femmes auraient des métiers différents des hommes.
Les femmes sont, à l'heure d'aujourd'hui, encore bloquées dans des métiers, donc, comme vous disiez. Et particulièrement, quel genre de métier, si vous aviez des exemples, ou même pourquoi, si vous aviez une réponse ?
Alors moi, je travaille donc au CIDF, hein, je l'ai dit, et effectivement, je me bats pour mener des actions qui permettent vraiment la mixité des métiers. Et je combats à la fois avec les femmes que j'accompagne, à la fois dans nos actions que l'on fait à titre de prévention dans les écoles, pour que l'on essaye de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une femme, parce qu'elle est femme, ne pourrait pas faire un métier. Et donc, on travaille au CIDF pour donner une valeur professionnelle au métier plus que en lien avec un sexe. C'est-à-dire que, par exemple, là, moi, je suis sur un travail un peu particulier parce que je m'aperçois qu'au CIDF, on rencontre beaucoup, beaucoup de femmes qui sont dans des secteurs de l'aide à la personne, du ménage, qui sont amenées à faire des temps partiels très partiels, avec des salaires très très bas, des déplacements sur des zones géographiques parfois inhumaines. Enfin, voilà. Et donc, je me dis, est-ce qu'elles pourraient pas faire autre chose ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres postes, même si on est sur des publics parfois non qualifiés ? Et donc, je fais un travail un peu spécifique actuellement sur le travail d'éboueurs, et je me dis, est-ce qu'il pourrait y avoir des éboueurs, eux ? Alors donc, je suis allée travailler un peu avec la communauté urbaine de Bordeaux, qui est sensibilisée et qui a un service qui a bien envie de développer la mixité dans ses services. Et au jour d'aujourd'hui, à la communauté de communes, il n'y a pas de femmes, mais on s'interroge sur pourquoi n'y a-t-il pas de femmes. Donc, comme je suis sensible à cette question, j'ai rencontré, puisque j'étais à Paris, des éboueurs, femmes, le week-end dernier, grâce au service qui a bien accepté de me les faire rencontrer, pour voir avec elles si c'était vraiment possible et comment elles vivaient ça au quotidien. Et ben, j'ai été vraiment très surprise de rencontrer... Alors, j'en ai rencontré deux, parce que je ne vous cacherai pas qu'à Paris, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et j'en ai rencontré deux qui sont rentrées, elles, il y a pour une 12 ans et l'autre 10 ans, enfin, ou même plus, enfin... qu'ils ont rentré parce que leur père, qui était à l'intérieur, leur a dit « Oh bah écoute, là, maintenant, ça serait bien parce que tu batailles à trouver un boulot, tu trouves des boulots précaires, alors que si tu rentres... » Donc, ça veut dire que l'homme lui-même a amené la femme à l'intérieur du boulot. Enfin, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque et que c'est pas dangereux. L'autre est rentré parce que son mari y était et qu'il lui a dit « Il y a des opportunités, viens. » Donc, preuve qu'il n'y a pas d'empêchement, en fait, que celui qui y est... Et elles y sont depuis 10-12 ans et elles rayonnaient. Elles rayonnaient de satisfaction, quoi. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Elles faisaient un boulot dont elles disent qu'elles ont. Alors, elles exprimaient aussi le fait qu'au départ, les hommes ont eu peur qu'elles baissent la cadence, mais qu'elles ne l'ont pas baissée. Que la question de travailler dehors, eh ben, elles le font, et elles le font, les femmes le font depuis bien longtemps, dans d'autres métiers, dans l'agriculture ou ailleurs, et qu'elles le font. Et qu'effectivement, le premier hiver, ça a été dur, mais que c'était fini. Que la question de travailler avec des hommes, bon, c'est vrai que c'est pas simple si c'est pas accompagné, parce que c'est toujours la question de la mixité, la question de la minorité, c'est-à-dire que ben quelqu'un qui est seul, un homme seul au milieu de dans un groupe professionnel de femmes, il va pouvoir être mis en difficulté comme une femme seule. Non, donc si c'est pas accompagné, c'est compliqué, mais que c'est faisable et voilà. Et que, qu'est-ce qu'il y avait le travail, les horaires atypiques. Une des personnes que j'ai rencontrées a dit qu'effectivement, c'était un problème, qu'elle avait 3 enfants au moment où elle est rentrée, et donc elle travaille le matin très tôt et qu'elle finit, mais qu'elle s'est organisée. Bon, je ne dis pas que c'est possible pour tout le monde, mais c'est, voilà, ce sont des métiers qui sont, je ne sais pas pourquoi, à un moment. Alors peut-être qu'à un moment de l'histoire, ça pouvait peut-être se justifier, mais au jour d'aujourd'hui, c'est sûr qu'il faudrait qu'on arrive à développer la mixité des métiers, permettre... à tout le monde d'aller vers en fonction de compétences, en fonction de qualifications, en fonction d'aptitudes personnelles, vers un métier qui correspond.
Mais ça passe peut-être déjà par l'orientation au départ. On oriente plus facilement sur
la scolarité. Ça passe par nos représentations aux uns et aux autres, là, nous tous ici, pour nos enfants, et ça passe par l'orientation, enfin par le travail de, comme disait monsieur, des enfants à l'école pour qu'eux-mêmes se sentent pas assignés à un rôle et assignés à un métier, quoi. Et à l'orientation,
Merci Marie-Françoise. Alors Bertie, tu as continué tes recherches, tu as pu avoir des témoignages de femmes ?
Oui, du coup j'ai pu avoir des témoignages de femmes, principalement d'une jeune femme mariée, mère de 4 enfants, qui est originaire de la Nouvelle-Calédonie, et qui m'a du coup raconté son parcours professionnel en tant que mère et femme enceinte, principalement, parce que je me suis rendu compte que encore certaines mères de famille ou même femmes enceintes subissaient des discriminations ou des difficultés pour trouver un emploi. Et ça m'a choquée. Et du coup, je m'y suis intéressée.
On va l'écouter.
J'ai obtenu mon bac STT option communication en 1996. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise qui fabrique et commercialise des chauffe-eau solaires en Nouvelle-Calédonie. J'y ai travaillé pendant 10 ans en tant que secrétaire commerciale. Lorsque j'ai commencé dans la société où je travaillais, je suis tombée enceinte, effectivement, 1 an plus tard, de mes 2 derniers enfants, donc des jumeaux. Ma situation professionnelle, elle a basculé. C'est-à-dire que ma relation avec ma hiérarchie était devenue de plus en plus difficile. On me demandait de faire des tâches qui n'avaient aucun rapport avec mon profil de poste. Et lorsque je faisais une réclamation auprès de ma direction, elle me faisait toujours la même réflexion du genre, le travail qu'il me demandait, je le faisais pour une future promotion. Donc c'est vrai qu'en ce temps-là, j'étais un peu trop naïve. Et donc je leur faisais une totale confiance car je n'avais pas d'autre choix. Donc c'était le seul travail que j'avais, étant donné que voilà, j'étais enceinte, j'avais déjà 2 autres enfants à ma charge. Donc du coup, je pouvais que leur dire oui. Et au fil des mois, donc je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas honnêtes et qu'ils profitaient justement de mes compétences professionnelles et de mes relations avec les clients, parce que je m'entendais très bien avec les clients, pour me mettre encore plus de pression. Quand ils me demandaient de faire des choses qui n'avaient rien à voir avec mon profil de poste, voilà, je disais oui, 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 et puis j'étais trop naïve, trop gentille, et du coup ils profitaient justement sur moi et je disais rien. Donc au fil des mois, et ben voilà, du fait que j'étais enceinte, je commençais à m'affaiblir et j'en parlais avec mes collègues, j'avais une très bonne relation avec eux, mais par rapport à la direction, il y avait un gros souci par rapport à leur management, à la façon de gérer les employés. Et ça me pesait. Et du coup, ben voilà, je suis partie, j'ai dû démissionner. Et puis, c'est pour ça que je suis ici en métropole maintenant pour reprendre mes études. Le fait que je sois mère de famille, les hommes me respectaient encore plus. Enfin, les hommes en tant qu'employés, ils me respectaient encore plus. Je dirais plutôt la différence entre un homme et une mère de famille. Parce que je trouve que les hommes, enfin, moi, c'est ce que je vois, ce que je remarque, que les hommes respectent, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient d'un certain âge, respectent un peu plus la femme en tant que mère de foyer, mère de famille. Les conseils que j'aimerais leur donner, c'est voilà, de rester très forte mentalement, parce que je sais que voilà, moi j'ai vécu cette expérience et que voilà, j'en ai ressorti des leçons. Et j'ai trop été naïve, j'ai trop été gentille envers les gens qui n'ont pas été sympas avec moi. Et le fait que je sois ici en France et que je rencontre justement d'autres personnes m'a servi m'a aidé à justement vaincre cette naïveté et regarder les choses autrement.
Nous remercions donc Émilie pour son témoignage et son expérience qu'elle nous a transmise. Et par la suite, je me suis également intéressée aux femmes monoparentales dans l'emploi. Parce que d'un côté, on a vu qu'il y avait les femmes mariées et mères de famille, mais aussi les femmes qui sont malheureusement célibataires ou qui sont séparées par les aléas de la vie et qui du coup doivent s'occuper de leur famille et de leur emploi pour ne pas
sombrer.
Le fait d'être une famille monoparentale, en soi, c'est compliqué. Bon, il se trouve que c'est majoritairement les femmes. Donc, et des femmes qui sont sur des métiers à faible valeur ajoutée, des métiers à temps partiel, donc des femmes dans la précarité déjà, en plus en étant monoparentales, c'est sûr que c'est beaucoup de...
Alors, un témoignage aussi, Bertie ?
Un témoignage de Sonia. C'est une jeune femme bordelaise qui est devenue monoparentale, du coup, et qui a accepté de nous raconter son histoire.
On l'écoute, alors.
J'ai une formation avec un bac comptabilité générale, avec ensuite une année de faculté en administration économique et sociale, puis une formation professionnelle qualifiante avec un diplôme reconnu par l'État. Donc ça, c'était en 98. Et donc je suis actuellement monoparentale, tout en menant une activité professionnelle à temps plein, sans RTT, sans aucun avantage qu'il puisse exister. Alors j'étais déjà en poste lorsque j'étais amenée à être monoparentale. Donc heureusement pour moi dans un sens, parce que c'est ce qui m'a permis de ne pas flancher en totalité. Même si parfois, comme on n'a pas toujours la tête au travail parce qu'il y a une situation délicate dans la vie privée, forcément ça joue et donc ça a un impact. Donc le travail est assez houleux à cette époque-là, donc c'était le but de ne rien lâcher parce que j'avais pas le choix en fait. Le fait que dans la vie privée, il y ait une situation houleuse, difficile, un cap à passer où il faut rien lâcher, forcément, ça a un impact sur le milieu professionnel parce que nous ne sommes pas des robots et que nous sommes aussi des femmes à part entière, donc avec non seulement toute notre sensibilité, nos émotions et notre vie à gérer aussi en monoparentalité qui est très complet et très complexe parfois. Donc ça fait un peu beaucoup, beaucoup de choses. Donc on doit tenir la cape au travail parce que personne n'est là pour nous soulager, personne ne va être là pour faire le travail à notre place et pour être à la hauteur de nos responsabilités vis-à-vis de notre supérieur, de notre patron, qui lui, rien à faire de savoir si ça va ou si ça va pas. Lui, pour lui, son but, c'est de faire avancer sa société et qu'elle soit rentable. Déjà que nous, les femmes, on n'est pas, entre guillemets, à juste titre rémunérées de la même façon à même hauteur que les hommes, d'une façon générale. Mais là où ça complique aussi la chose, c'est qu'on est limité d'un point de vue carrière professionnelle. On ne peut, entre guillemets, plus évoluer puisqu'on n'a pas de temps supplémentaire à accorder à une évolution possible et on n'a pas non plus envie de s'alourdir plus par rapport à ce qu'on doit déjà tout supporter, tout gérer, tout tenir le cap. C'est d'autant plus difficile parce qu'on a une pression qui est relativement constante.
Merci du coup Sonia pour ce témoignage très intéressant.
Merci Bertie. Alors la condition des femmes seules pour élever leurs enfants, c'est, ouais. Ça reste donc les plus précaires.
Souvent, pardon. Non mais effectivement, la question finalement de la parentalité, quoi. Qui est-ce qui est parent dans la famille ? Est-ce que c'est que la femme ? Parce qu'effectivement, c'est plutôt... poignant dans la famille monoparentale, mais comme le disait Edith, cette question du rôle de la mère et du rôle de la femme, même dans le couple, c'est quand même elle qui est chargée souvent de tout ce qui sont les contraintes liées au ménage et les contraintes parentales, et que voilà, ça c'est aussi une problématique. Si on la résolve, si on arrivait à dépasser ça dans la famille de façon générale, ça simplifierait la famille monoparentale, quelle qu'elle soit.
Oui, parce que je pense que ce qui est crucial, et c'est ce qui a été dit, c'est la question de la parentalité, sauf que même dans la séparation, il reste toujours deux parents. Sauf en cas de veuvage, ce qui est rare, ça arrive dans la situation de monoparente, hein, de femmes seules. Mais c'est bien plus le cas d'hommes seuls, hein, qui sont en situation de veuvage et qui vont se retrouver monoparents, monopères, enfin seuls. Mais dans le cas de la monoparentalité des femmes, il y a quand même une majorité de femmes qui ont, dont le père, hein, parce qu'avant d'être l'époux, là pour le coup c'est la question de la parentalité, le père est parti tout simplement, ou n'assume rien. Dans la question de la prise en charge des enfants. Et donc, c'est bien une question de la prise en charge de l'enfant. Et ce qu'on voit, les études féministes l'ont montré, en même temps, ça doit énormément interroger notre société, c'est que c'est dans le divorce, dans la séparation, en fait, que les hommes ont pris en charge une partie de la responsabilité des enfants. C'est-à-dire ce qui aura le plus fait évoluer dans notre société, le partage des tâches, hein, qu'elles soient domestiques ou à l'égard des enfants, c'est le divorce, quand même. Voilà, donc c'est bien au départ, et d'ailleurs dans le couple, dans les chiffres qui sont montrés aujourd'hui, c'est à la naissance du deuxième enfant, puis du troisième, où là il y a une aggravation totale de la répartition des tâches. C'est-à-dire que plus il y a d'enfants dans le couple, moins les tâches et l'accompagnement aux enfants est partagé entre la femme et l'homme. Ça se prouve statistiquement aussi. Donc c'est aussi, dans les études qui sont menées, la question des causes de divorce, hein, où les femmes, en fait, se séparent aussi parce que la prise en charge, parce qu'elles ne trouvent pas dans le couple la question aussi du partage, voilà, d'une vie à deux, et notamment à l'égard des enfants, quoi. Donc voilà, en même temps, c'est extrêmement intéressant puisque la question de la monoparentalité, c'est une question qui fait un flash, si vous voulez, mais elle ne doit pas nous piéger, hein, dans le sens de ce qu'est être parent, même en couple, quoi.
Oui, bien sûr. Oui, oui. Maintenant, on sait que c'est des femmes qui vivent, c'est les plus précaires maintenant dans la société, ces femmes-là.
Des grands mouvements féministes aujourd'hui qui se positionnent en disant que ce qui est bénéfique pour la parentalité, c'est la garde alternée. Vous avez 15 jours chez l'un et 15 jours chez l'autre. Donc, parce que être parent, c'est une responsabilité. On ne choisit pas quand on l'est. Mmh. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est bien à recentrer parce que qu'est-ce que c'est l'enjeu de la parentalité? C'est la question de la capacité de travail aussi, hein. C'est la question du partage et de la professionnalisation et des carrières des femmes. Et ça se montre très très bien. Ça n'est pas simplement un enjeu de l'espace privé, mais c'est bien un enjeu de disponibilité pour sa carrière et pour la vie civique et la vie publique, hein. Donc la question de la parentalité, c'est une question de responsabilité et l'État doit re-responsabiliser chacun des parents. Voilà, en disant, donc ça veut dire aussi que dans son métier, on doit en tenir compte. Un homme doit prendre un congé parental, doit prendre des congés enfant malade, au même titre que les femmes, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'il y ait moins de responsabilité dans l'éducation et dans la prise en charge de ses enfants.
Merci Edith. Allez, on finit avec Océane, donc sur un peu l'histoire des luttes féministes et des différents mouvements.
Exactement. C'est une histoire qui est bien souvent occultée et dont on ne nous parle pas forcément dans les manuels scolaires. Et surtout parce que aujourd'hui, le mot féministe est connoté très négativement. Or, en fait, se cache derrière ce mot un panel énorme de luttes et de revendications qui sont loin d'être uniques et de former un seul bloc. Donc voilà, je voulais revenir un peu pour faire les distinctions de ce qui existait et ce qui ont construit les luttes des femmes aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme mouvement féministe, alors ?
Tout d'abord, il y a eu plusieurs mouvements féministes qui sont créés dans des contextes différents. On donne l'apparition du féminisme autour de 1789, donc la Révolution française. Il faut savoir qu'avant cela, il y avait quand même des précurseurs et des précurseuses, notamment Christine de Pizan et Poulain de la Barre, qui se positionnaient déjà au XVe siècle, en fait, pour l'égalité homme-femme. Ensuite, au cours de mes recherches, j'ai eu l'occasion de rencontrer Pauline, qui a réalisé un master d'histoire sur les femmes rurales pendant la Révolution française, et qui du coup va revenir un peu sur l'histoire de ces luttes à partir du 19e siècle. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'également, après la Révolution française, on a un vrai combat qui se situe sur l'accès à la citoyenneté pour les femmes, avec notamment Olympe de Gouges qui écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, mais aussi des femmes plus radicales comme Pauline Léon ou Claire Lacombe, en fait, qui voilà, se battent toujours pour l'accès à la citoyenneté. Donc tout de suite, je vous propose d'écouter Pauline qui revient sur les différents mouvements féministes pendant l'histoire à partir du 19e siècle.
Pendant le 19e siècle, on peut citer des grandes phases. D'abord, la révolution de 1830 qui voit le développement d'un féminisme lié au socialisme utopique, avec notamment les fourriéristes et les saint-simoniens, avec des femmes qui étaient très présentes dans ces mouvements-là, qui ont questionné la place des femmes dans ces mouvements, et plus largement la place des femmes dans la société du 19e. Le deuxième grand événement, c'est 1848, où là, des milliers de femmes du peuple font de la politique et questionnent l'entrée des femmes dans la citoyenneté qui a été mise en place à cette époque-là. Le deuxième 19e siècle, la deuxième partie du 19e siècle, voit le développement du féminisme de plus en plus. On peut citer par exemple Flora Tristan, qui est bordelaise, mais c'est vraiment sous la Troisième République que l'on voit se structurer un mouvement féministe comme le connaît à peu près aujourd'hui, et d'abord sous des mouvements modérés. Que parallèlement à ça, dans le deuxième 19e siècle, se développe un féminisme beaucoup plus fort aux États-Unis, qui prend une place extrêmement importante. Et c'est donc tout le 19e siècle qui voit se structurer au niveau international français et en France aussi un mouvement féministe qui prendra toute son ampleur au début du 20e siècle. Début du 20e siècle, les femmes commencent à se structurer. Première guerre mondiale, elles participent économiquement beaucoup plus à la vie de la société. Questionnement, qu'est-ce qu'on fait des femmes après la guerre? féminisme de l'entre-deux-guerres. Et donc, bon, là, la Seconde Guerre mondiale éclate. Et donc, là, on a un statu quo jusqu'à la fin de la guerre et l'après-guerre. Les femmes obtiennent le droit de vote comme, on va dire, un pacte républicain, avec aussi en reconnaissant que les femmes ont participé à la Seconde Guerre mondiale, ont permis au pays de se maintenir à se maintenir. Et, mais c'est un questionnement qui existait déjà avant la guerre, mais qui s'est concrétisé après la Seconde Guerre mondiale. Et là, on arrive aux années 60, et ce qu'on appelle le féminisme de la seconde vague. Et là, le féminisme de seconde vague, c'est un féminisme qu'on connaît plus actuellement. Ce féminisme-là se nourrit de toutes les pensées et des nouvelles analyses, notamment matérialistes, qui questionnent la construction de ce qu'est qu'une femme et ce que c'est un homme. Et dans les années 60, on a notamment un moment très important, c'est la publication du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui est structurant du féminisme à seconde vague. Sujet central de ce féminisme de cette deuxième vague, c'est le contrôle du corps. Éclatement dans les années 70, mouvement de libération des femmes qui prend énormément de place, le planning qui devient une association très très forte à ce moment-là, qui existait déjà auparavant, mais c'est qu'il prend une ampleur en termes nationaux qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu avoir avant. On obtient beaucoup l'avortement, on obtient beaucoup de batailles, la question féministe devient une question centrale dans la société. Ces mouvements-là, dans les années 80, commencent à se diminuer, le nombre de militantes commence à diminuer, et dans les années 2000, on a un renouveau du féminisme. Qui passe par de nouveaux questionnements, qui montrent et qui démontrent aussi l'envie de ces mouvements-là de questionner la place des femmes dans la diversité des femmes et plus juste les femmes, on va dire, blanches de la classe moyenne. On a une vocation à questionner comment la précarité joue sur la question du sexisme, comment être une femme noire et une femme blanche dans la société aujourd'hui, c'est pas la même chose. Comment habiter dans la campagne ou habiter au centre-ville d'une ville, ce n'est pas la même chose. Et en fait, c'est un peu la spécificité des années 2000 en termes de féminisme, c'est aussi une multiplicité des questionnements. Pour en arriver dans les années 2010, qui voit quand même la spécificité, c'est une radicalisation. Des antiféministes qui se structurent autour de l'extrême droite française et aussi autour des mouvements anti-mariage pour tous, de ce qu'ils appellent la théorie du genre qui n'en est pas une.
Donc on le voit bien, les revendications féministes évoluent, se différencient et pourtant dans l'imagination collective, on perçoit donc toujours cette connotation négative. Donc il faut savoir que le féminisme, c'est pas un bloc, une entité, mais en fait qu'il y a plusieurs féminismes. Et pour rapidement en distinguer les trois grands connus, il va y avoir le courant matérialiste, donc qui applique un peu la lecture scientifique et qui a vocation en gros à questionner la construction sociale et en fait le fait qu'on nous donne un rôle en fonction de notre sexe, alors que finalement on est tous des êtres humains et qu'on devrait pouvoir avoir le choix de rapidement. Donc il y a aussi le courant abolitionniste, donc là globalement ça va être les femmes qui pensent pouvoir s'émanciper que en restant entre femmes, et les complémentaristes qui, comme son nom l'indique, c'est un courant qui a vocation à l'égalité mais dans des valeurs assez traditionnelles de la femme et l'homme se complètent, la femme est douce donc elle complète la virilité de l'homme, etc. Donc on voit bien c'est une vision très très traditionnelle encore une fois de la famille. Donc aujourd'hui moi je voudrais juste revenir un petit peu sur un petit point d'actualité sur par rapport à la manifestation de samedi donc pour la lutte des droits des femmes qui je trouve cette année s'inscrit dans un contexte particulier puisque les personnes vont encore une fois manifester leur soutien et renouveler leur soutien aux femmes espagnoles qui voient leur droit à l'avortement reculer. Effectivement, le projet de loi stipule qu'elles ne pourront pas avorter, elles ne pourront avorter que en cas de danger pour la mère et en cas de viol avéré. Ce recul est énorme, surtout en fait quand on sait que les différentes lois restrictives qui sont appliquées dans des pays où l'avortement est donc restreint n'ont jamais fait baisser le taux d'avortement. Et en fait, ce qui veut dire que ça oblige celles qui ont les moyens à aller avorter dans d'autres pays et celles qui ne les ont pas à mettre leur danger et leur vie en danger.
Ouais.
Voilà, à les condamner quoi. Donc la lutte, elle est aussi actuelle en Espagne, mais en France aussi, parce que comme on le voit avec les relents d'extrême droite, la manif contre le mariage pour tous. Ça re-questionne la question de l'individu et particulièrement de la femme. Et surtout quand on entend des propos comme celui de Jean-Marie Le Pen qui, il n'y a pas longtemps, soutenait le gouvernement Rajoy espagnol et qui appelait les femmes à assumer leur fonction de reproduction. Donc on est bien loin des idées de libre choix à disposer de nos corps et de l'émancipation des femmes et d'égalité finalement.
On va peut-être annoncer la manifestation de samedi. Elle est à quelle heure, Océane ? Et où ?
Le collectif des droits bordelais des femmes appelle à 15h à la victoire. Sera ensuite, il y aura un débat organisé à la maison du A à 17h30 autour de l'IVG et quel enjeu pour les femmes.
Merci, Edith. Et si vous voulez réagir là-dessus, quelques petits mots pour terminer.
Ouais, je ne peux pas ne pas réagir sur l'Espagne, après Marie-Françoise. Juste rapidement, ce que je voulais dire pour illustrer cette question de l'égalité, c'est d'abord que l'enjeu, en fait, de l'égalité femmes-hommes, c'est l'enjeu de résoudre aussi les questions de violence. Hein. Donc ça, il faut le redire. Ce qui se joue chez les féministes, c'est la question de la domination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problématique s'il n'y a pas de relation. C'est-à-dire que contrairement à tout ce qu'on a pu entendre, la question du féminisme, la question humaniste, c'est la question de la relation femme-homme. C'est pas la question des femmes, ça n'est pas la question des hommes, c'est la question de la relation. Et que les hommes, comme les femmes, subissent des formes de stigmates et d'organisation de groupes sociaux. Un homme, ça doit être comme ça, une femme, ça doit être comme ça. Un homme doit exercer la violence, une femme doit subir la violence. De manière caricaturale, mais c'est bien la question de la domination. D'autre part, que cette question-là, elle est au fond de nos entrailles, elle est au fond de nos histoires, hein, européennes, françaises, bien sûr. Hein, c'est pas qu'une question exotique, c'est une question profondément démocratique. Hein, c'est-à-dire que si elle se pose pas à un pays qui se veut libre, qui affiche la liberté sur ses fronts de mairie, alors elle se pose à personne, ça c'est certain, et que il n'y a pas de linéarité comme on le voit en Espagne. C'est-à-dire que tout le temps, dans l'histoire des femmes, et c'est le cas par exemple après la Première Guerre mondiale, hein, où les femmes ont été, beaucoup d'hommes sont morts pendant la Première Guerre mondiale, énormément. En France, en Angleterre, les Américains aussi ont envoyé des contingents et en Allemagne, hein, beaucoup d'Allemands sont morts aussi. Et les femmes anglaises, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, ont réussi à faire passer le droit de vote, hein, parce qu'elles ont revendiqué la participation à l'effort de guerre, non seulement parce qu'elles avaient perdu des conjoints et des fils, mais aussi parce qu'elles avaient travaillé, quoi. Mais il y a eu une régression dans les années 20 et elles vont être complètement, dans tous les pays européens, d'ailleurs freinées sur leurs droits dans les années 30, hein, même sous le Front Populaire 36 et la Seconde Guerre mondiale, avec la violence qu'a représenté le nazisme et le fascisme, a représenté une très forte stigmatisation des femmes aussi, bien plus que dans toute l'histoire mondiale, quoi. C'est-à-dire que les femmes, au même titre que les personnes qui étaient de confession juive, au même titre que les personnes qui connaissaient un handicap, au même titre que les personnes dont on soupçonnait une homosexualité, ont été brimées, tuées et blâmées, voilà, d'une manière très violente, quoi. Et l'image de la régression, donc c'est évidemment la famille péténiste, mais c'est pas que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on pense, par exemple, que l'on peut revenir sur un droit aussi fondamental, qui a fait des millions de mortes, hein, je veux dire, l'avortement avant 75, en France, c'est 75, hein, l'autorisation. Eh bien, avant, nous avons des grands-mères qui sont mortes avec des aiguilles à tricoter et des cintres, hein, parce que, voilà, elles ne souhaitaient pas ou elles ne pouvaient pas, on vient de le dire, il y a des situations sociales qui font aussi pour lesquelles on ne peut pas assumer ou on ne veut pas assumer cet enfant. Et voilà, il y a des millions de raisons. Donc c'est fondamental pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est une violence énorme de ramener. En plus, on ramène cette question-là à la question de la femme en faisant ça, c'est-à-dire à son corps qui porte. Alors encore une fois, la question de la parentalité, elle est aussi au fait qu'à un moment donné, on est deux pour la conception. Donc renvoyer la souffrance sur le corps des femmes, c'est d'une violence inouïe. Les bras m'en tombent après le franquisme quand même.
Marie-Françoise.
Cette question d'égalité, effectivement, est une question qui concerne tout le monde. Et je pense que chacun de la place où on est, on devrait pouvoir être vigilant parce qu'on voit qu'effectivement, ce sont des questions qui sont fragiles, pour lesquelles parfois on avance et parfois on recule. Et que c'est quand même qu'une question de respect des uns et des autres et de mieux vivre ensemble. Enfin, moi, je sais pas.
Alors Jacques Brunet va intervenir.
Là, j'ai sous les yeux un écho des collines d'avril 2012. Hein, c'était pour une émission ici même, enfin à l'occasion du 8 mars. J'ai pas eu l'impression qu'on a tellement avancé. Et justement, les événements d'Espagne doivent nous préoccuper. J'ai pas l'impression qu'on progresse beaucoup. Donc la vigilance s'impose.
Merci Jacques. Alors on a quand même juste un petit mot espoir dans la lutte des femmes. Et je veux juste revenir avec Océane qui, avec des collègues étudiantes, ont quand même créé un collectif féministe. Juste deux petits mots et puis...
Exactement. Donc pour faire bref, on a monté un collectif féministe donc qui s'appelle le CLÉ, le collectif de lutte des étudiantes féministes qui souhaite être présent sur tout le campus de Bordeaux et qui a vocation à questionner donc le monde universitaire, mais pas que, et notamment sur la question du sexisme, en créant des nouveaux outils de lutte pour les filles. Et ça passe donc par, premièrement, prendre conscience du monde dans lequel on est, et du coup ce que c'est que le sexisme au quotidien. On se veut aussi faire le relais entre les filles qui subissent tout plein de choses et les institutions, les organisations qui sont capables de gérer ces cas-là, puisque nous on n'a pas la prétention de dire qu'on le fait, on préfère être le relais et le soutien moral et amical.
Et voilà, et vous serez présents samedi.
Voilà, on sera présenté.
Donc voilà, on finit sur ça. Femme en tête, à ce nom, c'est samedi, 8 mars aussi, au Rocher de Palmer, à partir de 14h. Donc vous retrouverez les femmes chefs d'entreprise qui viendront témoigner avec des goûters, un bien-être par le sport, défilé de mode avec les chefs d'entreprise, les femmes chefs d'entreprise qui sont intervenues. Ouais. Voilà.
Elles se mettent en situation dans leur métier, quoi.
Voilà, bon bah super.
Juste peut-être alors, puisque j'ai une dernière... Je voudrais simplement aussi annoncer un café féministe qui a lieu le 11 à 19h au boulevard des Postes.
Non. Voilà. Le 11 mars.
11 mars, ouais.
D'accord. Je vous remercie en tout cas à toutes et à tous. Et puis on se retrouve le mois prochain pour une autre question de médiation. Bonne soirée sur Odo Radio. Merci.